Pour la plupart d'entre nous, ça fait quand même pas mal de nouvel an que nous passons ensemble, dans différents lieux d'ailleurs. Mais c'est pas une chose qu'on peut répéter, finalement, c'est quand même quelque chose qui chaque fois se déroule de manière neuve. On peut pas se dire, tiens, où est-ce que j'en étais resté la dernière fois? Oui, j'en étais resté là, je vais continuer. Non, c'est pas ce qui va surgir. Et c'est important d'ailleurs d'avoir cette attitude de découverte, dans le fond. Si on voulait reprendre sa pratique ou on l'a laissée, que ce soit l'année dernière ou lors d'une autre retraite, ou même dans le quotidien, ça voudrait dire qu'on veut accumuler quelque chose, qu'on veut garder quelque chose qui est justement de l'ordre de ce qui ne peut pas être accumulé, de ce qui ne peut pas être gardé. Donc même si nous retrouvons, il y a des personnes qui sont nouvelles, mais pour beaucoup, si nous retrouvons à nouveau dans une période de fin d'année, eh bien c'est quand même toujours de manière nouvelle. Donc quelque chose que nous faisons ensemble, dans le silence, quelque chose qui pourrait paraître similaire si on l'observait de l'extérieur. Si on avait une caméra qui voulait filmer ce que c'est que des méditants en fin d'année, on aurait l'impression qu'on a affaire à des gens qui font la même chose, dans le fond qui éprouvent la même chose, et pourtant chacun, chacune d'entre nous vit à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même selon ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie, dans cet instant-là. Quand je dis dans sa vie, c'est pas voilà ce qui se passe depuis un mois pour moi, mais c'est à cet instant-là. Donc chacun, chacune d'entre nous vit quelque chose de particulier. Et pourtant, les expériences que nous vivons, elles ont aussi quelque chose de similaire les uns avec les autres. Et quelque chose qui est similaire, on est traversé évidemment par, on pourrait dire, la qualité de présence, de tranquillité, de clarté, ou à d'autres moments de confusion, d'émotion, de somnolence, même si les formes de ceci sont spécifiques à chaque instant pour chaque personne. Donc il y a quelque chose que nous mettons en commun, ce silence en commun, cette pratique, et je crois que ça nous aide bien les uns les autres, et puis finalement aussi, chaque personne étant dans sa propre exploration. Donc il est important de respecter ces deux aspects, dans le fond, le support que le groupe apporte, et puis aussi les caractéristiques, la singularité de chaque personne. Et l'enjeu de ce que nous pratiquons ici est fondamental. Ce n'est pas simplement une sorte d'amélioration, de décoration, quelque chose qu'on ajoute un peu à ses capacités. Voilà, je sais faire de la peinture, du crochet, de la méditation. Je ne t'ai pas parlé, je sais faire de la méditation, j'ai appris l'autre jour. Comme si c'était quelque chose de plus qu'on pourrait ajouter. Et le sens que nous donnons ici à méditation, je crois, est beaucoup plus vaste. Il n'est pas simplement une activité supplémentaire, une compétence supplémentaire. Je pensais à une phrase de Socrate. Je ne sais même pas si elle est de Socrate, mais enfin, disons qu'elle est de lui, ben ça fait bien. Enfin, le type, il a quand même est assez respecté, mais donc qui aurait dit une vie qui ne se met pas à l'épreuve d'elle-même ne vaut pas la peine d'être vécue. Une vie qui ne se met pas à l'épreuve d'elle-même ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est quand même un peu ce que nous explorons, une vie qui se met à l'épreuve d'elle-même. Vous voyez, si nous venions ici simplement pour découvrir un peu plus de calme et de tranquillité, ce qui pourrait être une intention, un objectif. Alors on ajouterait, dans le fond, à notre expérience, à notre vie, un peu plus de calme, de tranquillité, un peu plus de joie, c'est quelque chose d'agréable. Mais ça ne serait pas une vie qui se met à l'épreuve d'elle-même. Ça serait peut-être aussi même une manière finalement de trouver une sorte de confort, puisque dans le calme et la tranquillité, il y a un confort, qui n'est pas une mauvaise chose. Il ne s'agit pas de nier la valeur de ceci, mais de ne pas réduire le sens de la méditation à quelque chose de cet ordre. Le danger d'oublier le sens le plus profond de ce que nous faisons. Avant de parler de choses plus ambitieuses, le nirvana ou je ne sais pas, il y a quand même ce fait d'essayer pour nous de recouvrer vraiment notre vie, notre existence. Nous avons une manière de nous absenter de notre vie. On la reporte, comme si on pouvait reporter la vie au lendemain. Je serai là, mais demain, quand ça ira mieux, quand je serai moins somnolent, moins agité, etc. Et à force de reporter le fait d'être pleinement en vie, finalement, il reste plus beaucoup de temps pour l'éprouver. Si évidemment on a tellement d'exigences, je veux bien être là dans ma vie, si, à condition. C'est cette manière de s'exprimer, de vouloir être en vie à condition que les choses aillent mieux, bien, si on a des difficultés ou si on n'a pas de difficultés, elles peuvent encore s'améliorer. Ça veut dire, si on place ceci à ce niveau-là, si je cherche une amélioration, plus de tranquillité, de calme, si je place l'enjeu de la méditation à ce niveau-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche des expériences, font des expériences agréables, et que je réduis mon existence à des expériences. Et ceci, évidemment, cache ou couvre le fait qu'il y a quelque chose de fondamentalement beaucoup plus profond que l'expérience agréable, désagréable, de tristesse ou de joie. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est le fait même de notre existence. Et si on se préoccupe constamment d'expériences dans la vie quotidienne, un bon repas, des bonnes choses, évidemment, ce ne sont pas des mauvaises choses, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire qu'il y a quelque chose de plus essentiel et c'est qu'essaie de toucher la méditation. Pour ceci que je dis que l'enjeu, il est au-delà d'expérience. Quand on essaie d'évaluer l'efficacité de la méditation au moyen de machines, ce qu'on évalue, c'est les expériences. C'est les expériences. Et ce n'est pas justement ce fait d'être, ce fait d'exister fondamentalement, hein, quelles que soient les expériences. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'un sens beaucoup plus profond. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une vie qui se met à l'épreuve d'elle-même? Voilà, c'est évidemment ce. Voilà, ça paraît sage ou intelligent cette phrase, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Une vie qui se met à l'épreuve d'elle-même, tout d'abord, on pourrait comprendre une vie qui s'éprouve pleinement, qui se vit pleinement. Non pas une vie qu'on essaye très, très souvent de ne pas ressentir, comme si on ne voulait pas être touché par la vie. Faudrait la survoler. Si on veut survoler la vie, hein, à ce moment-là, il y a toujours quelque chose qui manque. Alors on va chercher d'autres expériences. Donc je pense qu'on pourrait dire une vie qui se met à l'épreuve d'elle-même, c'est une vie que l'on veut vivre pleinement. C'est-à-dire consentir à être là pleinement avec ce qui est là. Et sans marchandage. Consentir à être là pleinement avec ce qui est là, sans marchandage. Sans reporter au lendemain. Et d'une certaine manière, ce n'est pas une sorte de choix ambitieux ou voilà. Parce que c'est la seule possibilité. On n'a pas d'autre possibilité que d'être là pour la vie qui est là à chaque instant. On ne peut pas être là pour la vie qui n'est pas là. Or, très souvent, c'est ce qu'on essaie de faire. On veut être là pour la vie qui n'est pas là. Puis il manque quelque chose dans ma vie, dans mon existence. Il manque ce qui n'est pas là et qui fait que je ne vois pas ce qui est là fondamentalement. Donc ce qui n'est pas là par moment, ben c'est le calme si on a un peu d'agitation, c'est la fraîcheur si on a un peu de fatigue, c'est la joie si on est un peu triste. Ou si on est calme, c'est plus de calme. Si on est tranquille, c'est plus de tranquillité qui n'est pas là. C'est assez extraordinaire comment on peut vouloir autre chose. Donc ce qui n'est pas là. C'est-à-dire de l'imaginaire. Donc on cherche, on veut une vie imaginaire et pas la vie réelle que nous avons à chaque instant. Voilà pourquoi l'enjeu est plus important, à mon avis, que le calme, la tranquillité et la joie. C'est vraiment recouvrer son existence pendant qu'il est encore temps. Alors évidemment, il y a des manières simples que nous avons, dans le fond, de nous absenter, qui est le fait de vouloir quelque chose qui n'est pas là. On s'en rend compte assez simplement dans la méditation, même si le fait de s'en rendre compte ne fait pas qu'on arrête cette manière de vouloir autre chose, mais je crois qu'on peut le remarquer ou le repérer assez facilement. Mais il y a aussi une autre manière que nous avons, dans le fond, de ne pas être à l'épreuve de la vie, ou de ne pas mettre la vie à l'épreuve d'elle-même. C'est, dans le fond, de la réduire à une histoire, de la réduire à quelque chose que l'on raconte plutôt que quelque chose que l'on vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'éprouver vraiment quelque chose pleinement, on le nomme, on le décrit. En la description, le fait de nommer le concept, et il n'arrive pas à cerner le vécu dans toute sa richesse. Dès qu'on veut réduire, ramener n'importe quel vécu à une description, un concept, on l'appauvrit immensément. Donc on a là aussi une manière de ne pas être vraiment dans sa vie pleinement, parce qu'on glisse constamment dans une vie qui n'est pas une vie vécue, mais une vie qui est une vie racontée. Même sans l'enjoliver, le simple fait de la raconter fait déjà que on n'est plus dans le vécu lui-même. Maintenant, si on parle d'être dans chaque vécu tel qu'il se présente, en essayant d'être le plus proche possible, sans vouloir le réduire à un concept, à un savoir, on peut se dire, mais dans le fond, si mon vécu, il n'est pas tellement agréable, à quoi ça me sert? Pourquoi méditer si c'est pour être avec ma tristesse, parce que j'ai même plus le droit de rêver à des jours meilleurs? Ça vaut pas le déplacement. Oui, on peut se dire, à quoi ça sert si la méditation veut dire être là pleinement avec ce qui est là? Si ce qui est là ne me convient pas vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu méditer, c'est parce que ce qui est là me plaît pas pleinement, et puis tout d'un coup, on me dit qu'il faut être avec ce qui est là. Ça joue pas vraiment quand même. Pourrait se dire, tiens, la méditation, c'est une manière de développer une sorte d'endurance aux difficultés. Oh, je suis arrivé à rester pendant 45 minutes avec des douleurs ou avec une tristesse ou avec... C'est extraordinaire. C'est pas ce dont il s'agit, c'est pas le développement d'une endurance. Peut-être que ça a de la valeur, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai jamais développé ceci. Je ne pourrais pas, en tout cas, vous l'enseigner. On demande à quelqu'un d'autre. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être dans une manière de subir, de subir les difficultés. Voilà, il faut souffrir parce que il y a quelque chose de bon dans la souffrance, de rédempteur, ou je ne sais pas quoi. Il ne s'agit pas de ceci. Pourquoi est-ce que c'est bien de rester avec, de s'ouvrir à ce vécu, quel qu'il soit? Non pas par endurance, mais c'est pour en découvrir la nature profonde. C'est parce qu'en général, quand immédiatement on veut passer à autre chose, on essaye d'aspirer à autre chose, parce qu'on ne veut pas vraiment voir, même si le terme est trop vague, on ne veut pas vraiment éprouver ce qui se passe dans l'instant, on veut autre chose. Donc constamment, on est à la surface des expériences. Ceci ne permet pas de les approfondir et d'en connaître la nature profonde. Et dans le fond, c'est ce qui nous intéresse en méditation, c'est la nature profonde des expériences, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et pour ceci, on peut le découvrir que dans l'expérience présente, que dans le vécu présent. Et ceci avec une immense rigueur, dès qu'il y a une sorte d'anticipation, aussi faible soit-elle par rapport à l'expérience présente, on ne peut plus l'approfondir. Je pourrais avoir... même un calme profond et vouloir encore un tout petit peu plus de calme, eh bien, ce vouloir un tout petit peu plus de ceci ou de cela, déjà, va être un voile qui ne me permet pas d'approfondir l'expérience. C'est pour ça que je parlais de consentir à être là avec ce qui est là. À nouveau, non pas pour développer une capacité d'endurance, mais pour en découvrir la nature profonde. Sans saisir les expériences, je parlais de savoir, on pourrait dire quelquefois, en fait, comme les sentences d'un tribunal. Moi, je suis agité, je suis d'un type agité, je suis d'un type léthargique. Voilà, on fait des sortes de bilans comme ceci. Alors, c'est normal que je rencontre ceci dans ma méditation parce que moi, je suis de ce type-là. Voilà. On s'enferme, on fige les choses comme si, ben voilà, c'est. Je dois éprouver les choses comme ceci, c'est normal, parce que c'est mon tempérament. On n'est pas des tempéraments, ça n'existe pas. On est des personnes vivantes avec des vécus qui sont là d'instant en instant. On peut se faire des tempéraments si on s'attache à des tempéraments, si on veut être un tempérament. On peut se la jouer tempérament si on veut. Paf. Moi, j'ai beaucoup de pensées, j'ai l'esprit agité. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, moi, la somnolence, comprenez. Depuis que je suis né, j'ai la somnolence. Donc, voilà, ma mère me disait déjà au berceau. Voilà. Donc, j'y peux rien. Vous voyez, cette manière de fixer les vécus. Alors là, évidemment, peut-être que c'est un peu la caricature, mais la manière de fixer un vécu par rapport à une sentence, que j'appelle une sentence comme la sentence d'un tribunal, fait qu'on fige le vécu et qu'il ne peut plus évoluer. On l'a bloqué. Il se peut que, qu'en cet instant, il y a un peu de somnolence, ou même beaucoup de somnolence, etc., mais si j'en fais une sentence, si j'en fais un constat, c'est comme ceci, alors à ce moment-là, je suis enfermé dans ceci. Il y a de la somnolence en cet instant, mais voilà, elle peut changer d'instant en instant. C'est une somnolence, si je prends cet exemple-là, vivante, qui à chaque instant pourrait changer un petit peu d'intensité, je pourrais dire de goût, de saveur. Donc la manière que nous avons aussi de nous enfermer dans des constats fait que nous figeons la vie dans des sortes de modèles et nous ne pouvons plus l'éprouver. Ce que nous éprouvons, c'est le constat, c'est le jugement, et nous éprouvons plus l'expérience elle-même. Donc il s'agit de reconnaître ceci pour nous dans la pratique et puis de dépasser. Oui, voilà, il y a la somnolence, ça ne fait pas de moi un être somnolent ou agité, etc. Peu importe ce qui se passe dans l'instant, il s'agit pour moi de l'éprouver pleinement avec une curiosité qui permet de l'approfondir. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'un esprit somnolent? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit agité? Qu'est-ce que c'est qu'un esprit calme? Joyeux. Quand je dis qu'est-ce que c'est, il ne s'agit pas évidemment de réfléchir raisonnablement. Il s'agit de l'éprouver, d'essayer de le goûter plus profondément pour découvrir ce que c'est. Et à ce moment-là, on est vraiment touché par la vie. On est touché par la vie si on enlève ce filtre qui est le filtre du concept, du jugement. Et on a vraiment l'impression que c'est comme une sorte de voile qu'on met avec ses jugements. Ce qui fait qu'on n'est pas trop touché par la vie. Donc est-ce qu'on peut consentir à être touché par la vie comme, je ne sais pas, comme les cordes d'un instrument de musique qui se mettent à vibrer? Et non pas comme un instrument de musique, je ne sais pas, qui a des cordes toutes rigides, on a mis des barres de fer au lieu d'avoir des cordes. Est-ce qu'on peut accepter d'être touché par la vie pour vibrer, vivre, éprouver? C'est quand même quelque chose d'assez surprenant que, dans le fond, nous ayons tellement de difficultés à être présents. C'est pas juste une demi-matinée. On va prendre un stage de méditation. On dit voilà, ça serait mieux d'être présent que d'être absent. On dit j'avais pas pensé à ça avant. Et ça y est, on rentre à la maison et puis ensuite on est toujours présent. Donc cette réticence que nous avons à être là, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Il n'y a pas une question d'habitude. Bah, ça c'est l'autre responsable, c'est la faute à l'habitude. C'est une résistance. On peut essayer d'être conscient de ceci. Prendre conscience comment on essaye de justifier notre absence. S'excuse, hein, comme les enfants à l'école amènent une excuse des parents. S'excuse de la vie. Je crois qu'un élément essentiel, me semble-t-il, c'est de prendre la responsabilité de son absence. Tant qu'on ne prend pas la responsabilité de ce qui nous arrive, alors on subit et le responsable, c'est quelqu'un d'autre, c'est la situation, etc. Donc on ne peut pas vraiment assumer sa vie. Et je crois que lorsqu'on essaye, on explore le fait de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, que ce soit l'agitation, la somnolence, la joie, la tranquillité et autres, on se rend compte, je crois que déjà là, on reprend une grande part de soi-même quand on prend la responsabilité. Quand on a placé la responsabilité ailleurs, c'est une partie de soi-même qui nous manque. Donc pas seulement essayer de se battre, j'allais dire, pour essayer d'être plus présent, mais aussi de se rendre compte comment on joue avec cette absence. Constamment. Donc, d'être présent, d'être là pour ce qui est là, non pas par endurance, mais pour approfondir chaque vécu. Et pourquoi approfondir chaque vécu? Voilà. On peut dire, moi je m'en fiche d'approfondir chaque vécu, ça sert à quoi? En plus, il n'est pas sympa, moi j'ai pas vraiment envie de l'approfondir. L'approfondir pour découvrir peut-être ce que nous sommes essentiellement. Alors je prends le point de vue bouddhiste, mais on pourrait prendre d'autres points de vue pour exprimer ceci avec d'autres mots. Ce que nous sommes essentiellement, c'est liberté. Et cette liberté, nous la découvrons seulement au moment où nous acceptons d'être totalement là. Alors on a l'impression que qu'on abandonne, qu'on doit renoncer à un plaisir, à pouvoir s'évader, à pouvoir rêvasser, etc. Non, moi, j'aime quand même mieux penser à mes prochaines vacances qu'être là sur mon coussin à somnoler, etc. Voilà, ben bon, le gain, il est quand même pas fantastique, quoi. Alors que lorsqu'on consent à être totalement là, ce qu'on peut découvrir, c'est cette nature essentielle qui est une liberté inconditionnée. Et je crois qu'il est important de se rendre compte que c'est le sens de la pratique. Mais même si évidemment ça demande de la pratique, même si évidemment ça reste quand même quelque chose de qui se place peut-être dans un long terme pour la plupart d'entre nous. Mais c'est quand même le sens. Et à mon avis, le fait que on puisse pratiquer dans la perspective de ce sens-là, que cette possibilité, on puisse au moins la placer comme hypothèse, est quelque chose de très important. Pour moi, c'est très important. Je réfléchis quelquefois en me disant, bon, ben, les progrès spirituels, c'est quand même assez lent, quoi. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais pensé que je prendrais autant de temps, et puis je suis encore loin d'être arrivé. En me disant, dans le fond, qu'est-ce qui m'enrichit fondamentalement? Je crois que c'est ce sens, cette certitude que la nature profonde de chaque être est la liberté. Elle me dit, si ma conviction était au contraire que les êtres sont des gens limités, assez égoïstes, assez confus, etc., si ceci était le fin mot de l'histoire, je crois que pour moi, ça serait une immense perte par rapport à cette perspective de penser qu'il y a une liberté inconditionnée. De la poser comme hypothèse et de l'explorer dans la pratique. C'est quelque chose que quelquefois on peut découvrir par des instants de pratique. Pas simplement dire voilà, le Bouddha l'a dit, les textes bouddhiques l'ont dit, on trouverait d'autres traditions aussi l'ont dit, ben voilà, c'est ça. Non, essayer de l'explorer dans la pratique, dans la mesure où on consent à être là. C'est-à-dire peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Voilà pourquoi je crois que quand nous nous réunissons en retraite, comme ceci, ça a un sens profond. Et même si quelquefois les pratiques sont difficiles, il y a de la somnolence, il y a de. Bon, ça peut arriver, surtout après les fêtes. Et puis, mais peu importe, ça veut dire qu'on est en train d'explorer quelque chose qui est profondément significatif pour nous. Quelque chose vraiment qui me semble être essentiel dans l'existence humaine. Et de savoir déjà qu'on est dans cette exploration, même si quelquefois on s'y perd. C'est quand même assez subtil. Mais de savoir qu'on est dans l'exploration de ce qui est essentiel. Ceci, pour moi, me semble très important et réconfortant. Au-delà de mon progrès dans ma méditation, qui lui laisse plus à désirer que le sens de la pratique. Mais le sens, ça, on peut le partager. Voilà, donc on reviendra sur évidemment pas mal d'aspects de ceci pendant ces quelques jours. J'aimerais qu'on passe à quelques minutes de pratique. Donc prenez la position la plus confortable possible pour vous. On reviendra demain matin sur la position pour les personnes qui sont nouvelles. pouvez fermer les yeux si vous voulez pour être un petit peu moins dérangé par ce qui se passe autour de vous. Et simplement découvrir lorsque vous fermez les yeux que vous êtes assis tranquillement. Dans le fond, qu'est-ce qui vous traverse? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, qu'est-ce que vous éprouvez? Quel est ce vécu qui se manifeste? Ou comment la vie se manifeste en soi-même à cet instant? Sans parti pris, que ce soit un peu de fatigue, ce qui pourrait être le cas, un peu d'agitation et autres, peu importe. Quelle que soit la manière de formuler ceci, comment est-ce que je me sens en cet instant? Pour dire quel goût ça a ma vie en cet instant-là. Cet instant-là, pas ce mois, cette année, mais cet instant-là. Pas tellement dans l'observation de ce qui se passe, mais dans le fait d'éprouver ceci. Il n'y a pas un méditant et puis des vécus. Le vécu est ce qu'est le méditant ou la méditante, d'une manière d'être. Ce pourrait que pour des personnes qui sont nouvelles, la question surgisse, mais qu'est-ce que je dois faire? Et cette question, c'est une manière d'être. Je suis là en cet instant me demandant qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce qui se passe pour moi. Je suis là en cet instant en train de penser ou de réfléchir. Voyez, non pas l'observer, mais être cet être pensant, réfléchissant. Il y a aussi une manière d'être corporelle. Nous ne sommes pas des abstractions, nous avons cette immense richesse que d'exister concrètement. Ça, nous l'éprouvons immédiatement. On peut sentir cette existence concrète, être cette existence concrète, ressentir dans la position assise. peut aussi que l'on sente un peu plus de vie dans certaines zones, l'abdomen ou la poitrine, dû au mouvement de la respiration. Donc sentir ici aussi, si tel est le cas, ce qui se passe dans cette zone-là. Sous l'impact de la respiration, sentir l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse, ou la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse, sentir la sensation. Cette chose extraordinaire que d'exister corporellement. vais dire quelques mots sur le cadre de la retraite. Donc le cadre que nous nous donnons pour cette vie communautaire, dans le fond, dans l'exploration de la méditation, est un cadre qui a pour but de faciliter cette pratique communautaire pour que ça occasionne le moins de difficultés possibles, de dérangements ou d'attention aussi constamment. Il faudrait ajuster certains éléments. Donc nous pourrions passer les quelques jours ensemble à constamment devoir corriger les choses pour que nous puissions vivre dans la meilleure harmonie. Donc nous choisissons un cadre qui est un cadre possible, ce n'est pas le seul, mais qui semble favoriser la pratique de la méditation. Enfin, un cadre que Patricia et moi-même avons inventé, évidemment, c'est celui que nous avons éprouvé nous-mêmes dans nos retraites précédentes. Et on pense que voilà, c'est une possibilité qui semble avoir certains avantages. Donc le fait d'être dans la simplicité de l'activité, alternance de méditation en marchant et de méditation assise, avec une tâche méditative pour évidemment aider aux tâches pour que la retraite puisse bien se dérouler. Une activité qui est importante parce qu'elle permet aussi d'explorer comment rester dans une certaine qualité de présence dans l'activité elle-même. Un aspect, je crois, intéressant de la pratique, et aussi le silence, qui est un aspect extrêmement important dans une retraite. Ça permet évidemment d'être beaucoup plus tranquille, d'être plus réceptif, plus dans le fond, dans une attitude d'intériorité. Le langage est quelque chose d'immensément riche. Donc si nous pouvions parler, je ne sais pas, à table ou même entre les méditations, hein, qu'il y ait peu d'espace pour ceci, à ce moment-là, il y aurait constamment un enrichissement avec des gens très intéressants qui ont beaucoup d'expériences différentes. Et il y aurait ces stimuli qui constamment surgiraient, ce qui fait qu'en méditation, on ne ferait que finir les discussions qu'on n'a pas eu le temps de finir. C'est pas une caricature, pour l'avoir éprouvé à de nombreuses reprises, c'est quand même assez ce qui se passe, quoi. Oh, j'aurais dû lui dire ceci, mais quand je vais la revoir, je vais raconter ceci. Et on finit la discussion dans la méditation, puis après on en reprend une autre avec une autre personne. Donc le fait de vouloir être plus réceptif, plus à l'écoute de soi-même que les autres. Donc de rester dans cette attitude de silence qui est très important pour soi et pour les autres. Pas seulement important, c'est pas un choix qu'on a. Finalement, moi, je décide de pas être en silence pendant cette retraite, parce que le problème avec un groupe comme ceci, c'est que une personne suffit à briser le silence, mais pour qu'il soit respecté, il faut que tout le monde le respecte. Donc c'est compliqué. Donc on peut pas dire qu'une personne peut avoir la liberté de dire moi je ne respecte pas le silence, j'ai pas envie. Par respect pour les autres, par respect pour le groupe ou pour l'exploration intérieure. Donc c'est un aspect important. Alors évidemment, dans ce silence, il y a ce nouveau venu dans la tradition, qui est le téléphone portable, et qui peut vraiment apporter beaucoup de distractions. Donc c'est important. N'utilisez pas vos téléphones portables pour vous-même et pour les autres. L'impression quelquefois que c'est rien du tout, mais juste un petit texte, un petit SMS, juste pour savoir si tout va bien. Et puis voilà, on vous avertit que le poisson rouge, il a un mauvais rhume et autres, et puis finalement, votre retraite, elle est ruinée, quoi. Des fois, c'est plus grave que le poisson rouge qu'un mauvais rhume. Et ça a l'air de rien, mais on a souvent eu affaire à ceci. Donc, juste en passant, rester en contact comme si on n'arrivait pas aussi à se retirer pendant quelques jours. On a une sorte d'incapacité à explorer la solitude, même si dans une retraite, nous explorons la solitude en groupe. Et c'est très important, cette manière d'être seul avec d'autres personnes. Quelque chose d'assez riche et d'assez étonnant. Je pensais à Winnicott, donc le pédopsychiatre, qui disait que L'enfant apprend l'autonomie et la solitude quand il est avec la mère qui n'intervient pas, qui peut rester là, qui est simplement présente. Et dans le fond, ce que le groupe donne, c'est cette présence qui n'intervient pas, qui permet à chacun d'être là. Je vous promets que c'est différent, enfin vous l'avez certainement éprouvé, mais si voilà, il y avait qu'une personne dans la retraite, il faudrait venir et respecter l'horaire qu'on donne, il y aurait beaucoup moins d'enthousiasme, vous venez, vous êtes tout seul, alors que là, on arrive, il y a tout le groupe, et eh bien ça, c'est un grand support, ça aide immensément, mais tout en restant dans sa propre solitude, dans sa propre exploration, même si on a des amis, des conjoints, des parents, c'est important de laisser chaque personne dans sa propre exploration. Quelquefois, on pourrait croire qu'on va aider une personne, elle est un petit peu triste, je vais lui demander, puis la personne, elle n'est pas du tout triste, elle a juste pas besoin de sourire puisque elle est en elle-même, donc elle n'est pas en représentation. Donc le silence partagé est quelque chose d'extrêmement riche. Toujours des gens qui disent oui, mais alors moi j'ai besoin de communiquer. Moi je suis quelqu'un de communication, mais ben, c'est pas vraiment besoin de communiquer, j'ai besoin d'exister par les autres. On comprend bien, mais enfin c'est bien d'en prendre un petit peu conscience. Qu'on met quelquefois on a besoin d'exister par les autres, et tout d'un coup lorsqu'on est dans une retraite et qu'on ne va pas exister par les autres parce qu'on ne va pas les solliciter, soit par le regard, soit par le sourire. Comment ça va ce matin? Autre chose. On croise une personne et sans vouloir communiquer, et ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je crois que nous avons tous fait cette expérience-là. Partager une retraite avec des personnes, c'est quelque chose d'important que nous avons partagé. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire que le silence partagé. Donc explorer ceci, alors. La parole partagée, on la connaît. Alors, je suis sûr que vous avez tous déjà fait cette expérience-là. Le silence partagé, on le connaît un petit peu moins bien, donc explorez ceci. Donc laissez tomber les téléphones portables et demain on proposera de recueillir les téléphones portables pour les personnes qui veulent s'en débarrasser pour la durée de la retraite. Ça a l'air tout bête, mais ça aide immensément. Parce que juste, ouais, je vais juste voir, juste, je vais ouvrir s'il n'y a pas un message. Moi, s'il y a un message, je réponds. Et puis là, on s'est déjà embarqué dans quelque chose d'autre. Tout d'un coup, on est en contact avec le monde entier. Et comme il y a un téléphone du centre, s'il y a vraiment une urgence, eh bien, évidemment, les personnes pourront appeler le téléphone du centre. Et puis, on vous avertira s'il y a quelque chose d'urgent, évidemment, d'important. C'est extraordinaire de ne pas avoir besoin d'un téléphone portable pendant quelques jours. Quelle chance quand même. Ça vaut le déplacement. Aux États-Unis, ils ont fait dans les retraites, ils font des retraites pour les adolescents. Alors évidemment, ils demandent le téléphone et autres. Et le plus grand choc pour beaucoup de ces adolescents, c'est de découvrir combien ils sont libres quand ils n'ont plus leur téléphone portable. Tout d'un coup, ils disent, waouh, c'était extraordinaire. Mais ça marche aussi pour les gens qui ont passé l'adolescence, de découvrir combien c'est extraordinaire de se passer du téléphone portable. Voilà, donc demain, on recueillera. Ce n'est pas une obligation. Si vous voulez les laisser comme ça évite toute tentation de juste voir s'il n'y a pas un message. On les recueillera demain à 9h45, au début des instructions, donc demain matin. Voilà, je crois, comme point essentiel. Donc, il y a aussi dans ce silence partagé un respect des uns et des autres, donc le fait de venir à l'heure à l'assise et aussi de se rendre compte que chaque personne traverse ce qu'elle traverse. Il y a des personnes qui ont un peu la crève, qui vont tousser. On va pas dire ah, mais qu'est-ce qui vient tousser là ou elle vient tousser là. On peut aussi avoir cette tolérance pour les uns et les autres. Chacun vit ce qui se passe. D'ailleurs, on pourrait très bien rouspéter parce qu'une personne tousse et le lendemain découvrir que c'est nous-mêmes qui toussions. Je me souviens d'une petite anecdote. Vous avez le temps là. Je guidais un voyage en Inde et c'était à Delhi, c'était le premier jour, donc il fallait partir de l'hôtel. Évidemment, moi, je dois attendre que tout le monde ait rendu les chambres pour payer la facture, etc. Et puis le responsable du groupe, c'était un groupe de Lyon, je crois, est venu vers moi et me dit, alors tu sais, si tu dis qu'on va partir à 10h30 et que t'es pas prêt à 10h30, ça va pas jouer. Hein. Bon, bon d'accord, hein, mais bon, il faut quand même que j'attende que tout le monde soit sorti. Et puis après, on était à Bénarès et cette personne est arrivée 45 minutes en retard parce que le rickshaw s'était perdu dans Bénarès, etc. Donc évidemment, je me suis dispenser de tout commentaire, mais enfin, je crois que c'était assez clair. Donc voilà, on va pas. C'est bien d'avoir la tolérance pour les autres, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver à nous. Donc qu'une personne tousse, etc., ou elle arrive tout d'un coup 2 minutes en retard, parce que quelle que soit la bonne raison. Donc aussi cette manière de s'aider les uns les autres dans la tolérance, ça c'est important. Et tout d'un coup, on se rend compte que le groupe amène quelque chose dans le fait de donner ce cadre sécurisant, dans le fond. Et si, même s'il y avait Patricia et moi avec deux, trois personnes, le cadre serait pas du tout aussi sécurisant. Enfin, quelque chose qui manquerait. Et aussi, j'aimerais parler de la continuité. Cette manière d'explorer le fait d'être là avec ce qui est là, ça ne joue pas que quand on est assis, les yeux fermés, ça peut être là à chaque instant. À chaque instant. Bon, il n'y a qu'à chaque instant, on peut découvrir cette profondeur de ce que nous sommes réellement. Je trouvais une petite histoire que raconte Buber qui me semblait assez intéressante. Alors, c'est un langage qui lui est propre, mais quand même, la manière dont il a formulé ceci me plaît bien. Il dit: Dieu ne dit pas ce chemin mène à moi, celui-ci ne mène pas à moi. Il dit ce chemin mène à moi pour autant qu'il mène à moi. Donc tout chemin peut amener à moi, à Dieu, tout chemin peut amener à cet approfondissement. Donc il n'y a pas que l'assise ou la marche, il y a chaque instant dans la vie, mais ici dans la vie, dans la retraite, chaque instant peut offrir cette possibilité d'être profondément en contact avec soi-même. Il n'y a pas une activité plus qu'une autre. Et quelquefois, on se surprend en découvrant que c'est les activités les moins formelles qui tout d'un coup nous ouvrent à un approfondissement parce qu'il y a moins d'attente. Dans l'assise, j'attendais l'éveil, j'attendais le nirvana, ça fait longtemps que j'attends, ça ne vient pas. Et tout d'un coup, je me déplace et j'attends plus rien. Il y a une qualité qui est différente. Donc essayer d'amener cette curiosité à chaque instant dans les déplacements d'une manière, j'allais dire, ludique. C'est, vous vous déplacez, comment on peut vivre ce corps en mouvement, etc. Vous sortez, il y a un peu d'air frais, etc. Donc d'être là à chaque instant pour ce qui se passe, mais pour votre propre enrichissement. Non pas pour quelque chose qui viendra bon, l'année prochaine, même si elle est assez proche, mais quand même dans chaque instant de l'expérience. Voilà pourquoi j'aimais bien cette manière dont Martin Buber exprime ceci. Donc chaque instant est une possibilité, pour autant qu'on en fasse une possibilité, c'est-à-dire qu'on s'y dispose. Voilà donc les quelques mots que je voulais vous dire ce soir. Nous retrouvons donc demain matin pour la première assise qui sera en silence. Bien commencer par la journée en silence, et puis donc avec les différentes activités, toujours en silence, et puis à 9h45, il y aura des instructions, et puis aussi la collecte des téléphones qu'on va envoyer en Afrique et autres. Non, vous faites pas de soucis, on va les garder là, on vous les rend à la fin du stage. Voilà, bonne retraite.